les papous dans la tête.
Groovy.
Bonjour, des papous dans la tête de 12h50 à 13h58 et en podcast sur franceculture.fr comme il vous plaira. Au menu du jour, un exercice d'admiration de Tristan Bernard et de ses grilles noires et blanches croquées par Patrice Delbourg.
Ah, les mots croisés. En vrai hédoniste du lexique, le noble art des mots en noir occupe le plus clair de ses loisirs. Suis le cours des rivières en 11 lettres.
Suis le cours des rivières.
Oui.
Oh, bravo, bravo. Une histoire de vent, selon Odile Conseil, pour les primaires votées Leclerc, Jacques Jouet, suivi des sorties de la rentrée de Patrick Beignet. Enfin, nous jouerons à écrire du Mauriac, né un dimanche 11, avec les experts Dominique Muller, Patrice Delbourg et les faussaires, Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy et Patrice Caumont.
Pourquoi Dieu m'a-t-il donné ce sale gosse? C'est le diable qui t'a fait. Va-t'en, va-t'en. Où veux-tu que je m'en aille?
Quel comédien.
On s'y croirait, hein. On a les larmes aux yeux.
Ah oui.
C'est là, poignant. Voilà, là, c'est ça, poignant. On est en plein dans... Voilà. Ah ben oui.
Françoise Tressart et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Honneur à un écrivain humoriste dont on célébrait l'anniversaire de naissance cette semaine, Tristan Bernard, auteur de jolis mots, tricoteur de calembours exquis, inventeur, aussi fan de sport, un homme admirable. Et quand il parle de lui, Patrice Delbourg retrouve son regard d'enfant ébloui pour une jubilation en forme d'exercice d'admiration. Patrice, vous nous racontez Tristan Bernard.
Modeste, il est dès qu'il évoque sa naissance à Besançon, dans la même rue que Victor Hugo. Lui, le grand poète, est né au numéro 100. Moi, au numéro 23 seulement. Paul Tristan, dit Tristan Bernard, dès son premier landau, prend le temps de vivre et pratique la facétie comme d'autres le fleuret moucheté. Des études effectuées sur un bout de lustrine, une carrière d'avocat débutée comme on se pend, bien vite son goût prononcé pour le sport et la fantaisie le conduit à prendre la direction du vélodrome Buffalo Bill, à partir de 1890 à Neuilly-sur-Seine. Il y officie comme starter, handicapeur et juge d'arrivée. Toujours modeste, il a même l'idée de créer des séries de repêchage pour les coureurs les plus malchanceux. L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue. Voilà sa banderole existentielle. Tel que le croque Toulouse-Lautrec, on le voit trôner en raspet, en knickerbocker, tel un prince ottoman sur la pelouse au milieu de la piste en bois d'érable de son cher vélodrome. Il a aussi l'idée d'instaurer la cloche du dernier tour, celle qui électrise les dossards. Parallèlement, Tristan collabore à la revue Blanche de Félix Fénéon. C'est à cette occasion qu'il prend le surnom de Tristan, celui d'un pur sang sur lequel il avait misé avec succès toutes ses économies pendant plusieurs réunions d'affilée. Signalons que notre doux fantaisiste fut aussi l'inventeur émérite du jeu des petits chevaux. Oui, le tiercé des grabataires, les petits chevaux.
Ah bon, c'est lui qui a inventé ça?
C'est lui qui a inventé les petits chevaux.
J'adorais jouer à ça, bien moi, sûr. Vous aussi, Lucas,
on a
non?
On joué à ça.
Ben oui.
Création ludique de la plus haute importance, au même titre que le nain jaune ou le Monopoly.
Ouais.
Et plus récemment, le Trivial Poursuite. Il fonde l'Association des écrivains sportifs le 17 juillet 1931. Jean Giraudoux en fut le premier président. En 1934, l'organisation du Tour de France propose à Tristan Bernard de couvrir l'épreuve. Quand le Tour de France passe, la France se presse sur le pas de la porte. Il suit la grande boucle, cette année-là remportée par Antonin Magne. Le bel Antonin, vous vous souvenez, auquel René Vietto a tendu sa roue en montagne pour lui permettre de garder.
Je ne m'en souviens pas très bien.
Vous n'êtes pas René Vietto? Oh.
Mais si, on s'en souvient tous.
Et vous, Violaine,
Gérard était sur le bas-côté.
Oh, je veux dire, ça fait partie des gestes absolus.
Oui, comme Christophe qui est en train de rebraser sa fourche. Comme,
Comme Zaf, repartant dans le sens contraire, après s'être arrêté.
Abdelkader Zaf était un coureur maghrébin, l'un des seuls qui ait fait le Tour de France.
Ouais.
Et un jour de grève des vignerons, il avait bu ce qu'il y avait dans un bidon, et c'était du rosé du Languedoc.
Ah oui, évidemment, oui.
Et donc il était reparti dans l'autre sens.
Il était échappé à retrouver le peloton de face.
Ah mais le pauvre
Zaf.
Mais il est devenu une légende du Tour.
Aujourd'hui, ça n'arriverait plus aujourd'hui.
C'est ça qui est triste.
Ils sont trop encadrés maintenant.
Les légendes, c'est les pharmaciens du stade aujourd'hui. Mmh. À Califourchon, sur la moto d'un suiveur, Tristan Bernard peut être considéré comme le pionnier du radio-reportage. Sa prose y fait merveille au creux du peloton. Ce qui nous frappe, c'est la grâce et l'adresse des cyclistes. Par exemple, quand ils côtoient une voiture de ravitaillement, lâchent leur guidon, enlèvent le boyau usé qu'ils ont autour des épaules et le remplacent par un boyau neuf qu'ils enroulent autour de leur torse. De loin, on dirait des charmeurs de serpents. À ce stade de son existence, si l'on peut dire, l'ami Tristan prend le temps de vivre. Il jardine ses bons mots. Il marcotte ses définitions de mots croisés. Ah, les mots croisés! En vrai hédoniste du lexique, le noble art des mots en noir occupe le plus clair de ses loisirs. Il enferme nuit blanche et humour noir derrière ses propres grilles aux définitions sibyllines. Il devient le mandarin des énigmes horizontales autant que verticales. Parmi ses plus célèbres trouvailles, muet de naissance en sept lettres.
Cinéma.
Arrive souvent au dernier acte, toujours en sept lettres. Notaire.
Ah oui, ah, magnifique, oui, magnifique. Oui, oui.
Suis le cours des rivières en 11 lettres.
Suis le cours des rivières.
Oui.
Oh, bravo, bravo,
bravo. Et enfin, son chef-d'œuvre absolu, vide les baignoires et remplit la bavoue.
Ah, bah, ah bah, le théâtre.
Non, l'entracte.
L'entracte, oui. L'entracte. Ah bah, j'étais pas loin. Oui.
Tristan aimait à murmurer à ses amis « Je ne retournerai jamais en enfance, j'y suis toujours resté ». Faux paresseux, père de famille exemplaire, il fréquente Jules Renard, Lucien Guitry, Léon Blum, Yvette Guilbert ou Éric Satie. Que du beau monde, le Vénard. Jamais admis parmi les 40 de la coupole, il persifle. Académicien, peu. J'attendrai qu'il en meure un à ma taille. Silhouette massive, barbe de druide en éventail, prince sans rire à l'instar d'Allais, de Camille, de Courteline, de Feydeau, l'intarissable tambourinaire du canular et de l'homophonie ne force toujours pas sa nature et tire sa flemme olympique. Malgré son constant éloge de la paresse, on compte tout de même 174 pièces de théâtre, 28 romans, d'innombrables poèmes au compteur tracés en faisant étrangement alterner humour anglais et pessimisme couleur anthracite. En bon point conséquent, myopie d'enclume, perpétuelle casquette de yachtman vissée sur la tête, fin joueur de bridge et de baccarat, l'ami Tristan n'a rien d'un donjon tombeur et promène sur le monde alentour un regard caustique et facétieux. C'est vrai, ses œuvres romanesques comme ses pièces de théâtre ne rencontrent pas toujours le succès escompté. Il s'en moque, hausse les épaules et lance à la cantonade. Un critique dramatique est un puceau qui prétend m'apprendre à baiser. Il a la vacherie roborative, la hargne joviale, la râlerie homérique, le flingage instantané. Il suit Georges Carpentier sur les bords des rings, assiste à différentes finales de Wimbledon. La guerre éclate, le côté attristant prend le pas sur... la frivolité du Bernard l'ermite. Ses origines juives le cantonnent bientôt à Drancy. Et là, toujours il plaisante, toujours il brocarde. Là-bas, tous les comptes sont bloqués. Ici, tous les blocs sont comptés. La légende rapporte que face au gestapiste qui lui demandait « De quoi avez-vous besoin, monsieur, pour votre dernier voyage ?» Il répondit « D'un cache-nez. » Sacha Guitry et Arletty le font bientôt libérer. Il s'éteint à l'âge vénérable de 81 ans, non sans avoir ajouté une strophe au stans à Marquise de Pierre Corneille. « Peut-être que je serai vieille, » répond Marquise. « Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. »
Ah oui, alors moi je ne savais pas que Brassens, c'est Brassens l'a reprise.
Oui, que Brassens a repris. Mais il le dit.
Ah bon, il le dit dans ses spectacles.
Non, ah, dans, dans son journal, mais quand t'entendais la
quand
chanson...
Quand t'entends la chanson, tu ne sais pas que c'est du Tristan Bernard.
Sa disparition n'a guère d'écho. Les quotidiens, en raison de la pénurie de papier, ne paraissent que sur 6 pages, et toutes les colonnes étaient déjà dédiées au général Leclerc, qui venait de se tuer dans un accident d'avion. Hélas, on vit dans un pays qui a toujours préféré célébrer ses militaires à ses humoristes.
Non era propriamente quello che si dice un buon battello, né alle Antille né alle Hawaii non ci andava mai. Lui navigava pian pianino, fra uno scopone ed un buon vino, non imbarcava Gigi's Bay, ma gli amici miei. Senza sé stante né bandiera, senza bussola prodiera, lui seguiva gli Alisei fino ai Perigei.
la sua ciurma era formata non da gente diplomata, in scuole nautiche o licei, ma da amici miei. Non eran certo individui che ai parti sono assidui, né profeti manichei né epicurei. Non eran certo di coloro che ci tengono al decoro e che disprezzano i plebei, ma amici miei. Non eran poi stinchi di santo, bestemmiavano quel tanto che se io fossi fra gli dei non li assolverei. Esser felici in compagnia era la sola litania, il solo credo e Agnus Dei per gli amici miei.
Et voilà les copains d'abord, signé pour l'interprétation Giuseppe Cerici. À noter sur vos agendas pour cette nouvelle saison nos rendez-vous du vendredi soir en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Et le premier, c'est le vendredi 30 septembre, très bientôt, de 20h à 22h30 pour une récré Vive la Sociale. Avec Hervé Le Tellier, Patrick Beignet, Jeanne Carillon, les Patrice Caumont, Delbourg Minet, Eva Almassy et Lucas Fournier. 2h30 de vos jeux papous préférés, dont certains écrits à vue sur la scène, avec des mots contraintes que vous imposerez à nos joueurs sans filet. Préparez-les. Et pour nous accompagner en musique, Pablo Gignoli au bandoneon. L'entrée, elle est gratuite. La réservation indispensable sur le site Maison de la Radio, toutattaché.fr. Maison de la Radio.fr, vous cliquez sur le calendrier au 30 septembre et vous réservez. C'est facile. Vendredi 30 septembre à 20h, les papous en public au studio 105.
Maman, t'as réservé pour les papous ?
Odile Conseil, c'est à vous et si on jouait au jeu des suppositions. Beaucoup de papous autour de la table du dimanche. Vous en choisissez un papou, et vous lui racontez son histoire. Avec une chute en calembour, on est sur les traces de Tristan Bernard, ça viendrait bien, non ? Allez Odile, vous lancez ?
Eh bien, je lance la balle à Jacques Jouet. Oui. Et je dis à Jacques, suppose que tu t'appelles Osseux. Peut-être est-ce parce que tu as de gros os ou de beaux os, mais plus sûrement parce que tu n'as que la peau sur les os. Maigre, ascétique, mais fier, le regard délavé dépassant l'horizon ou transperçant tes interlocuteurs. Tellement que tu en as de moins en moins, des interlocuteurs, puis plus du tout. Tu intimides, Osseux, tu impressionnes, tu fais peur, comme dans le film d'horreur Skeleton, squelette en français.
Oh mais c'était très bien dit, on avait compris, Odile.
Mais peu te chaud, Osseux, il te reste la nature, les arbres, les oiseaux et le ciel à qui parler. Tous ont le bon goût de ne pas te répondre, ce qui te convient somme toute fort bien. Tu es un sac d'os, mais de sac tu n'en as pas. Tu sillonnes à grands pas chemins et sentiers, lavé par les averses, rossé par la grêle, habillé parfois de neige, décapé par le mistral. Tu vas, tu marches, tu avances, parlant au cumulonimbus, houspillant les stratocirrus, tu déclames à tout vent du Saint-John-Perse ou improvises des poèmes à tout va. Éole te contemple en souriant. Il aime ta légèreté et ce vent de folie que tu fais souffler sur les paysages que tu traverses. Bon prince, Éole décide même de t'aider pour que tes vers, tes strophes, tes fulgurantes inspirations puissent s'en aller murmurer à l'oreille des enchaînés, des mourants, des trop malades, des trop pauvres, de tous les immobiles du monde. Éole a mis à ta disposition toute sa panoplie de transports aériens, le Zéphyr, l'Harmattan, le Feun, la Mousson, le Norrois et tous les autres. Selon ton inspiration, tu peux, pour envoyer tes vers, utiliser le fort ou le doux, le sec ou l'humide, le dévastateur ou l'apaisant. Aujourd'hui, Osseux, tu as forgé quelques vers. Squelette de glace et cœur de feu, errant sur la banquise calcinée, homme de peu, j'étais le plus heureux, poursuivant un seul but, n'arrivait jamais.
Magnifique, je suis assez fier de ces vers.
Oui, c'est vos meilleurs, je crois.
Ce poème, tu l'intitules Chaud-froid, et tu choisis pour le répandre de mélanger un vent froid, la galerne, et un vent chaud, le sirocco. Te voyant faire, Éole sourit. Tiens, tiens, se dit-il, l'homme osseux mêle deux vents.
Ah, le voilà, le osseux.
Ah là là, mais on se demandait, moi je ne trouvais pas, vous aviez vu quelque
non,
chose
je
venir,
je tendais
non
du vent, mais oui. Non.
Oui, l'homme osseux
mêle deux vents.
Mêle deux vents. Et pas mal, comment vous avez fait pour penser à ça?
Un éclair de génie, absolument inattendu sans doute.
Alors, on boit un coup? Attends quoi? Attends que j'écoute les papous. Les papous, et c'est dans la tête, tous les dimanches, à 12h50. Et c'est sur France Culture.
Et on va boire après, Ricardo. Et il y a foule en recherche d'une pole position pour les primaires. On se croirait, tenez, encore au JO, dans l'épreuve des 10 km en eau vive. Ils se bousculent, se donnent des coups au moment du ravitaillement en idée. Ils pensent avoir toutes les chances de toucher en tête, être président, le rêve. Pourquoi les autres et pas nous ? Au Papou, Ricardo Meusner, dimanche dernier, a présenté son programme. Autour de Jacques Jouet aujourd'hui, un Jacques Jouet masqué, sous pseudonyme, qui vise à une victoire aux primaires. Jacques Jouet entre jeune pousse politique et routard mûrissant. Et sur le plot de départ, il plonge son regard dans ceux avides d'être guidés des militants. Jacques, vous seriez candidat ?
Oui, mon nom est Jules Leclerc.
Oui.
Ça s'écrit comme le général.
Mm-hmm.
Et je suis candidat à la primaire pour l'élection au poste de président de la société de pêche, la Frétillante, de la Chapelle-sur-Gardon.
Ah oui, parce qu'il y a une grosse rivalité.
Oh, attendez. Cette élection n'était pas prévue aussitôt. C'est une surprise. Elle a été rendue nécessaire par l'événement tragique que vous savez. Non ? Vous ne savez pas ?
Non, on ne sait pas tout.
Je vais
tout,
vous le rappeler.
Merci.
Notre bien-aimé président, je parle ici de lui en tant qu'homme, même s'il était pour moi un adversaire politique, en quelque sorte. Notre bien-aimé président, Jean-Chrétien Sinopoli, lequel a exercé ses fonctions 35 ans durant, une fois élu, 8 fois réélu, a disparu le 27 juin dernier dans des circonstances tragiques. Lui qui avait toujours été un grand ami des animaux, principalement des poissons, s'était dépensé sans compter pour la repopulation de nos rivières et pour le caractère strictement sportif de la capture. Jamais il ne prit un poisson sans lui ôter délicatement l'hameçon du gosier, lui administrer une compresse de bétadine et le relâcher dans son élément. Le destin fâcheux a voulu qu'il mourût étouffé par une truite qui bondit sur lui alors qu'il était debout en cuissarde dans les rapides de Bondeloup. La truite sauta dans sa bouche ouverte au moment où il s'écriait « Vain Dieu la belle bleue !» La bête, qui ne pensait certainement pas à mal, se coinça dans son larynx, puis dans son pharynx.
Oui, mais c'est très connu cet événement. Ça a eu lieu.
Eh oui.
Non, mais il a fait Wikipédia, il n'y a pas de problème.
Quelques secondes à se débattre, et le président mourait étouffé. Le président est mort, vive le président. La vie continue, et bien sûr, notre université d'été a été quelque peu troublée par cet événement tragique entre tous. Heureusement, nous avons tout de suite été unanimes à la Frétillante pour la tenue automnale d'une primaire. De quoi s'agit-il ? Notre bien-aimé président sortant le disait déjà, la question des poissons migrateurs. Je rappelle que jamais il n'employa le terme de migrant. La question des poissons migrateurs était la question dominante de l'heure qu'il fallait savoir prendre à la nasse. C'est-à-dire, dans le langage maritime et fluvial qui était le sien, à bras-le-corps. C'est ce à quoi je me suis attelé dans mon programme et mes propositions. Ça commence par une analyse serrée de la situation. Lors de notre université d'été, mon concurrent le plus sérieux pour la primaire et néanmoins ami, Gilbert Dartimon, affirme que les migrations de perches du Nil sont en passe de passer le canal de Suez, objectif sur le vieux port de Marseille ou le delta du Rhône. La grande sécheresse en Afrique et les difficultés alimentaires subséquentes étant à l'origine de ces départs. Il n'en est rien. Les perches du Nil ne sont pas des poissons volants, que je sache. Et je voudrais bien qu'on me dise comment passer à la nage du lac Victoria jusqu'à la mer Rouge. Non, cette migration existe, oui, mais par le fait de passeurs, en conteneurs remplis d'eau douce traversant en camion le Sud-Soudan, le Soudan et la Libye. La traversée de la Méditerranée, je le précise, étant le plus souvent fatale à la perche du Nil, du fait de la teneur en sel de l'eau de mer. La situation est à peu près similaire quant à la tanche du Tigre et à la brème de l'Euphrate, qui ne songe qu'à venir dans nos rivières indemnes pour le moment de toutes les formes de bombardements aériens possibles. Je pense pour ma part, c'est en ce sens que je veux défendre les couleurs de notre tendance droitière, mais je veux dire vraiment de droite, pas sans tomber dans l'extrémisme que vous savez, et en rompant définitivement avec les sinuosités imprévisibles, opportunistes et démagogiques du président Sinopoli. Il importe, premièrement, de tendre les filets verticaux à mailles serrées au Gros du Roi, au Château d'If, à Vintimille, à Charybde et à Silla, en accord avec nos amis italiens. Deuxièmement, de retenir les perches du Nil, les tanches du Tigre et les brèmes de l'Euphrate dans de bonnes conditions alimentaires et sanitaires, avant de les renvoyer dans leurs eaux qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Ceci est évidemment un sujet capital. Il en est un autre qui eût été de première importance à d'autres époques. C'est celui du matériel. Je m'engage, si vous validez ma candidature à la primaire dans un premier temps, et si vous m'élisez président dans un second temps, à demander à tous nos adhérents de renouveler entièrement leurs équipements de pêche, trop souvent obsolètes et facteurs de risque tant pour les proies que pour les autres pêcheurs et les riverains, promeneurs, baigneurs ou bronzeurs nus au soleil. Mon fils aîné, vous le savez, a monté une entreprise incontestable et incontestée qui vend tout. Du moulinet de lancer à la casquette à deux visières en passant par les leurres de toutes les couleurs et la plastification du permis. Grâce à lui, des kits complets de rééquipement conformes aux normes européennes, les plus récentes, seront proposés à nos adhérents à un prix, je peux vous l'assurer, défiant toute concurrence. Voilà mon slogan. Pour la primaire, c'est clair. C'est Jules Leclerc.
Très bon, excellent slogan. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Vous faites l'amour.
Au contraire, moi je suis fasciné qu'à la Chapelle-sur-Gardon s'invite à la fois la géopolitique mondiale et ce qu'il y a de plus noble dans le débat politique français. Voilà. C'est une synthèse exceptionnelle.
Mais ce que je n'ai pas tout à fait compris, monsieur Leclerc, c'est est-ce que les tanges du Nil, enfin les perches du Nil, les tanges de je ne sais plus d'où, arrivent bébés, enfants, et c'est nous qui les nourrissons? Vous voulez dire nos eaux territoriales? Ou est-ce qu'elles arrivent déjà adultes, prêtes à être consommées?
Ils arrivent en famille, madame.
Ah, ben voilà.
C'est le regroupement familial. En banc, même.
Pardonnez-moi de vous déranger, Jean-Bernard Puy, mais je vous sens très concerné par ce que vient de dire Jacques Jouet, alias Jules Leclerc.
Oui, parce que je fais toujours partie de la frétillante, évidemment.
Mais vous êtes qui, vous?
Mais je suis le fils de l'ancien président.
Et alors, qu'est-ce que vous prenez la parole en public?
Mon cher Jules Leclerc, merci de vous préoccuper de notre sombre avenir. Il est vrai qu'en tant que fils légitime de notre feu et bien-aimé président, Jean-Chrétien Sinopoli, j'ai du mal auprès de vous à imposer une pensée qui soit considérée comme personnelle et non la suite normale d'une longue hégémonie. Et pourtant, contre toute attente, je vous appuie dans votre candidature.
Oh !
À un seul point près, qui me semble primordial, et que vous n'avez pas abordé. Votre lâcheté proverbiale en est sans doute la cause. Cela concerne les poissons migrateurs, que vous n'osez même pas, dans l'étroitesse de votre éthique, appeler tout simplement des migrants. Il est une question que vous évitez avec constance. Nos lois, nos habitudes, notre humanisme nous impose de légitimer, d'accorder une nationalité, de régulariser certains, je dis bien certains, de ces migrateurs. Peu, je vous l'accorde, mais quand même. Alors, qu'allons-nous accorder à une perche du Nil qui veut intégrer durablement notre communauté? Qu'elle devienne une perche du Petit Morin? Ou une perche de la Marne? Elle qui vient d'un des berceaux de l'humanité acceptera-t-elle cette quasi-déchéance? Je vois à l'avance des esprits facétieux et rieurs déclarer qu'elle préférerait devenir une perche télescopique, c'est plus sûr. Peut-on proposer à une tanche du Tigre de se changer en tanche de l'Adour ou de la Vidourle? Je vois des esprits tout aussi familiers et rieurs lui proposer de récupérer l'état d'une bonne tanche de Rigolade, ce que, vexée, elle refusera tout net. Et la brème de l'Euphrate, que deviendra-t-elle? Si nous lui accordons notre perpétuelle protection, une brème de l'Oise ou du Couesnon? Ne parlons même pas des esprits rieurs et facétieux qui proposeraient l'identité de brème au chocolat ou, plus infamant, de brème de beauté. Tous ces exemples pour dire qu'il faut bien, à l'avance, réfléchir à la dignité de la poiscaille que nous allons obligatoirement accueillir chez nous. Il ne faut pas qu'elle tombe dans le filet, ou, pardonnez-moi l'image, les brochets, sans foi ni loi, vont la bouffer toute crue. Et même si vous émettez l'idée que nous allons ensuite renvoyer perche, tanche et brème chez elle, faites en sorte de le faire en respectant le confort et la bienséance. C'est-à-dire de leur faire accomplir ce long et périlleux voyage de retour en boîte, au citron ou au piment, voire en poudre pour alimenter les yaks, gnous et buffles qui là-bas en ont bien besoin. Tant que vous ne répondrez pas à cette question essentielle, j'aurai pour ma part une grande difficulté à voter pour vous. Michel Albert Sinopoli, directeur des conserveries, ça frétille dans l'huile.
Ah oui, c'est excellent comme conserve, ça.
Oui, c'est très, très
ah
bon.
Ah oui, j'en ai trouvé, bon. C'est très très bon. Mais vous porteriez comme candidat, du coup, à la primaire ou pas?
Ah non, voilà, déjà la conserve,
ça
a du mal à me conserver, donc oui, non, ça va.
Qu'est-ce que vous pensez de son intervention, Jacques Jouet, Monsieur Leclerc?
Ben, c'est-à-dire que ce garçon que je connais bien,
oui,
connaît bien les poissons en boîte, effectivement, mais à l'idée de mettre une pêche du Nil dans le petit morin n'a plus d'eau au bout de 5 minutes, parce que vous savez, vous trempez la pêche du Nil dans le petit morin,
elle
déborde.
Et ça déborde tout de suite, et il n'y a plus d'eau, donc c'est totalement invraisemblable.
Mais le petit morin est un...
Peut-être grand.
Est une rivière, peut être grand aussi, bon. Mais c'est une rivière dans une zone qui est facilement inondable, donc ça ne lui fera pas peur.
Bon, donc toujours candidat.
Ah bah oui,
et
plus que jamais.
Toujours de droite.
Plus que jamais.
C'est pour ça que j'ai cité le petit Morin, qui d'ailleurs est grand.
I won't grow up. I don't wanna go to school. Just to learn to be a puppet. Recite a silly rule. If growing up means it would be beneath my dignity to climb a tree, I won't grow up, won't grow up, won't grow up, not me. I won't grow up. I don't or a serious expression in the middle of July. And if it means I must prepare to shoulder burdens with the worry, there I'll never grow up, won't grow up, never gonna grow up. So gonna be a man. I won't like to see somebody try and make me anyone who wants to try and make me turn into a man. Cast me if you can, 'cause I won't grow up. I don't want to wear a tie and a serious try to act just like a guy. 'Cause growing up's awfuler than all the awful things that ever been. I won't grow up, won't grow up, I won't grow up again.
Kelly Jones, je ne grandirai pas. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, au micro Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, les sorties de la rentrée et jouons avec Mauriac pour le match expert contre Fosser. Qui verra l'affrontement entre les Faussaires, Jean-Bernard Puy, Lucas Fournier, Patrice Caumont et les experts, Dominique Muller, Patrice Delbourg, sur une œuvre choisie par Gérard Mordilla. Des questions, madame l'expert?
Mais non,
Dominique,
pas du tout. J'ai un souvenir ardent de ce livre, absolument terrible. Donc, je pense que je vais le reconnaître d'une seconde à l'autre.
Ah, ouais, et vous aussi, Patrice Delbourg?
Pas de questions pour Mauriac. On se soumet à la prose de Mauriac.
Il est formidable, Delbourg.
Pour l'heure, les sorties de la rentrée à voir, des expos, des films, des pièces à lire, des Goncourables, des bons bouche à oreille, vrais romans, autofiction, des conseils martelés dans tous les journaux, radio, télé, recommandations culturelles à ne manquer sous aucun prétexte, sous peine de passer pour un pauvre ignare démodé. Notre spécialiste du jour, c'est Patrick Beignet. Je me suis laissé dire, Patrick, qu'en dehors de l'écriture de vos livres sur Henri Drénier, Victor Hugo, Alfred Jarry, le théâtre du 19e siècle, j'en passe, et de vos facéties au Papou de France Culture, vous écrivez des articles de saison. Dans quel journal, d'ailleurs?
Dans Le Nouveau Journal.
Et sous pseudonyme ou sous Patrick Beignet?
Non, je m'appelle Jean-Pierre Boudinet.
Ah, moi, je ne crois pas que je vous ai lu, déjà. C'est pas un journal à mon niveau, quoi, je suppose.
Non, c'est pas ça, mais j'ai choisi un pseudonyme plutôt gris et pas éclatant.
Oui.
Donc vous ne pouvez pas le retenir. il n'est pas fait pour ça, c'est pas une attaque personnelle.
Ah bon, merci. Jean-Pierre Boudinet,
oui,
donc.
Bah,
vous voyez, je l'ai retenu, votre nom.
Boudinet.
Pas Boudinet.
Eh bien, j'ai mon article de rentrée.
Ah, très bien, oui.
Qui est un titre... solide, un spectacle, un livre, les deux bombes de la rentrée.
Oui.
L'événement théâtral du Festival d'automne, c'est un spectacle de 9 heures par le collectif Nous marchons vers la parité. Et le titre du spectacle, c'est Odéon 2748. Vous savez, maintenant, le théâtre ne se fait plus sérieusement que par des collectifs.
Oui.
Et en principe, avec des noms farfelus.
Mais un peu ronflant quand même.
Un peu ronflant.
Oui.
Nous marchons vers la parité, c'est un collectif de 9 jeunes hommes d'ailleurs, qui ont vraiment entrepris une grande métamorphose. Il s'agit d'un spectacle à côté duquel ceux de Claude Régis sont l'équivalent des Folies Bergères des années 50. Le point de départ du collectif est d'une grande rigueur intellectuelle. Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire de tel ou tel grand acteur qu'il rendrait passionnante la lecture de l'annuaire du téléphone? Qu'en savons-nous exactement? Yann Le Gargou et Camille Latreille, et tout le collectif « Nous marchons vers la parité », ont décidé de tenter l'expérience. Les membres du collectif récitent donc intégralement l'annuaire du téléphone parisien de 1938, dont les 72 000 adresses composeront une soirée divertissante malgré son austérité. Le collectif a choisi l'annuaire de 1938 car il constitue un témoignage de l'âge d'or du téléphone entre deux guerres. Pourquoi Odéon 2748? Camille Latreille, à qui nous avons posé la question, nous a expliqué qu'il s'agissait du numéro de son arrière-grand-père qui habitait en 1938, 24 rue Casimir de la Vigne, à Paris. Il s'agit d'un spectacle d'une très haute virtuosité, d'un véritable défi pour les acteurs du collectif. Les numéros, le nom et l'adresse des abonnés sont tous d'une absolue exactitude, les interprètes surveillant les uns les autres, n'hésitant pas à interrompre leurs camarades en cas d'erreur. Ils se succèdent sur la chaise placée au centre de l'espace scénique, éclairée par une ampoule nue. Cet éclairage, réglé par Daniel Bonneteau, ce maître de la lumière théâtrale, donne aux 9 heures du spectacle une profondeur mystérieuse qui rappelle les plus belles inspirations de Tadeusz Kantor et de Claude Régis, maître revendiqué par le collectif « Nous marchons vers la parité ». Le décor, les sous-sols de l'ancien hôtel des postes de Bagnolet, est un mélange de ruines industrielles et de fantasmagories dignes de Jules Verne, à ne pas manquer.
C'est très alléchant. Mmh. Est-ce que c'est une lecture où ils ont appris par cœur?
Ah, ils ont appris par cœur.
Ah ouais, ouais, c'est encore plus fort.
Bah,
ouais.
Sans ça, je ne parlerai pas de haute virtuosité.
Mmh.
Vous pensez bien.
Ah bah, des
on
fois,
voit, vous ne lisez pas Jean-Pierre Boudinet, très souvent.
Non, mais je vais devenir une adepte, probablement.
L'autre bombe de la rentrée, c'est un livre. Il est bien difficile aujourd'hui d'imaginer un livre écrit à quatre mains par Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras. C'est pourtant une publication somme toute comparable qui constitue l'événement littéraire de la rentrée. Un livre écrit conjointement par Annie Ernaux et Christine Angot. Un livre, un vrai livre, pas un produit journalistique bâclé, pas une série d'entretiens ou de polémiques. Un livre écrit par les deux écrivaines, loin des projecteurs et dans la plus grande discrétion. Pas un produit médiatique. Ce volume de 700 pages s'intitule « Egidio de Viterbe ». Il s'agit, nous disent les deux auteurs, d'une rêverie poétique sur cette grande figure de l'humanisme romain, née en 1469 et mort en 1532. Pourquoi avoir choisi ce cardinal proche du pape Jules II, dont les recherches érudites et la dimension spirituelle ont beaucoup fait pour le rayonnement du catholicisme au début du XVIe siècle ? la réponse à cette question reste le secret d'Annie Ernaux et de Christine Angot, qui n'ont pas voulu expliquer leur choix. Nous ne l'avons pas dit encore, il s'agit d'un poème en alexandrin, d'une épopée sur le modèle de Dante ou de Milton. Alexandrin magnifique, qui ranime soudain une poésie française qu'on voyait pâlir et se défaire depuis la mort de François Copé. Quelle énergie, quelle splendeur verbale, qu'on en juge par ces quelques exemples. La ville ressemblait à l'univers, c'était cette heure où l'on dirait que toute âme se tait, que tout astre s'éclipse et que le monde change. Rome avait étendu sa pourpre sur la fange, où l'aigle avait plané, rampait le scorpion.
C'est beau, non, Hervé Le Tellier, je vous sens tout ému, tout chose.
C'est assez rare qu'on ait une diérèse à scorpion, mais c'est beau.
Eh ben oui, ça l'est d'autant plus. Oui. Oui.
Les deux écrivaines se sont impliquées avec tant de cœur et de foi poétique dans leur projet qu'elles ont choisi de ne distinguer en rien ce qui est de la plume de l'une ou de l'autre. Il s'agit véritablement d'une écriture collective, ce qui confère à ces 12 000 vers une sorte de beauté supérieure qui, plus d'une fois, fait venir les larmes aux yeux. La place nous manque, hélas, pour évoquer la personnalité attachante d'Egidio de Viterbe et les grands moments de son existence, sa vocation, chant 2, sa rencontre avec le jeune Michel-Ange, chant 6, le parallèle au chant 8 entre Egidio et Démosthène, et enfin au chant 11, l'évocation du sac de Rome en 1527, où les hordes luthériennes détruisent la bibliothèque du cardinal Egidio, entre beaucoup d'autres choses.
Vous diriez que c'est un livre grand public ?
J'ai aucune idée. J'ai aucune idée des goûts du grand public, mais enfin, ce sont des auteurs qui ont conquis un grand public.
Absolument, donc, absolument. Mais on en parle sur France Culture.
La question, c'est pas de savoir si ce livre-là va se vendre, et si le suivant, leur livre suivant, va se vendre.
D'accord.
Ah oui ?
Pour terminer cette revue de la rentrée, deux notes brèves. Après Egidio de Viterbe, il y a moins de grandeur et d'élévation dans le cycle de manifestations organisé jusqu'en décembre par la mairie de Paris à l'occasion du 8e centenaire de l'invention du pâté en croûte. Sans l'engagement d'Anne Hidalgo, l'événement serait sans doute passé inaperçu. Populaire et non élitiste, inventé en 1216 par le bourguignon Gilles Lardot, dit Gilles Lacroute, le pâté en croûte est l'occasion de nombreuses réjouissances du mois de septembre à Noël. Depuis les installations de jeunes plasticiens jusqu'à de belles soirées hip-hop.
Intéressant.
N'est-ce pas ?
Mm-hmm.
Et enfin, un film, La bergère et ses monstres. Un film très curieux, venu du Cambodge, où il a remporté un énorme succès populaire. Ce sont les aventures d'un chat épilé, lancé malgré lui dans de désopilantes aventures, où il s'identifie à Sherlock Holmes, lancé lui-même à la poursuite des voleurs du collier de la reine. Tiré d'un roman populaire de 1920, le scénario se termine sur une pirouette très surprenante que je ne me décide pas à raconter à mes lecteurs.
C'est dommage.
Mais il est épilé poil à poil.
Ah, poil à poil.
Tout, tout épilé,
oui, oui.
Épilation intégrale.
Ouais. Ah, mais c'est pas que le maillot.
Après, c'est la question que je me posais.
Pourquoi les fachos? Pourquoi les vaches? Pourquoi les vaches plaisent-elles autant? Oh, mais pourquoi les vaches? Oui, pourquoi les vaches plaisent-elles autant à toutes sortes de gens?
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, expert contre faussaire. Il était né un dimanche 11, comme aujourd'hui, mais pas le même mois. Une occasion de fêter François Mauriac, dont on ne parle peut-être plus assez. À une époque d'ailleurs, sa petite fille, Annie Wesemski, a fait un bout de chemin avec nous au Papou. Je ferme la parenthèse. Trois faussaires, Patrice Caumont, Lucas Fournier, Jean-Bernard Puy, écriront chacun ce qu'ils imaginent être le début et la fin d'un certain roman de Mauriac que Gérard Mandier a choisi aujourd'hui pour notre jeu. À défaut de connaître par cœur les phrases de l'auteur, ils en feront un pastiche. Ils sont fins lettrés, ils peuvent tous trois réussir à berner les experts Dominique Muller et Patrice Delbourg, mais ces deux-là sont aussi très cultivés et panés de la dernière pluie littéraire. Retrouveront-ils le vrai Mauriac parmi les faux? Et parviendront-ils à attribuer à chacun des faussaires son pastiche ? C'est le plaisir de ce jeu que vous plébiscitez, à juste raison, ce qui nous permet aussi de plonger dans le style et l'œuvre d'un grand écrivain. C'est parti avec Gérard Mordia. Quel roman avez-vous choisi, Gérard ?
J'ai choisi un roman que j'admire beaucoup, ce roman qui s'appelle Le Sagouin, qu'il a publié en 1951.
C'est le poil de carotte de...
Voilà, c'est exactement ça. C'est l'histoire de Pauline, une bourgeoise qui, par ambition, a épousé M. Galéas, baron de Cernès. Une union finalement désastreuse. Pauline est dégoûtée par son mari, dont elle a eu un fils, Guillou, un pauvre enfant disgracié et légèrement retardé qu'elle surnomme le Sagouin. C'est le titre du livre. Madame Galéas, qui ne sera jamais Madame la Baronne, personne ne l'appelle comme ça, est une de ces mères terribles comme Madame Lepic de Jules Renard, comme la folle coche d'Hervé Bazin, et plus près de nous comme Betty, la femme de Don Draper dans la série Mad Men.
Ah oui.
Pauline Galéas de Cernès est une mère qui hait son enfant, qui le dénigre, qui le moque, le frappe, le martyrise et finalement le pousse au suicide. C'est un livre impitoyable. C'est un des grands livres, à mon avis, de Mauriac. Alors, la première scène est un dialogue d'une grande violence physique et verbale entre cette mère et cet enfant coupable de ne pas savoir ses leçons.
Oui, très bien. Et l'ambiance de la fin ?
L'ambiance de la fin est une ambiance très lourde. Les dernières phrases sont pleines de gravité, de douleur, mais sans pathos. Elles unissent le père et le fils dans la paix d'un cimetière.
C'est joyeux, hein ? Bon, c'est un très bel exposé. À mon avis, vous êtes servi. Pas de questions, Patrice Caumont, Jean-Bernard Puy, Lucas Fournier. Puisque vous serez faussaire.
Je serai faussaire, moi ?
Oui, Jean-Bernard. Oui. Vous êtes content ? Des questions, madame l'experte ?
Mais non, pas du tout. J'ai un souvenir ardent de ce livre absolument terrible. Donc, je pense que je vais le reconnaître d'une seconde à l'autre.
Ah, et vous aussi, Patrice Delbourg ?
Pas de questions pour Mauriac. On se soumet à la prose de Mauriac.
Très bien. Bien dit. Un peu de musique ? Lucas Fournier, Jean-Bernard Puy, Patrice Caumont ont donc travaillé sur cette proposition de jouer avec le Sagouin de François Mauriac, ce qui n'était peut-être pas facile, non, Lucas ? Vous qui êtes un bon papa, qui ne criez jamais après vos enfants, cette scène violente du départ à écrire, c'était difficile ?
Ah, d'être violent à la Mauriac ?
Oui.
Non.
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 Fastoche, très bien. J'ai entre mes mains vos textes ainsi que le vrai texte de François Mauriac. Et nos experts, bien ma foi, Dominique Muller, Patrice Delbault, ont eu le temps de la musique pour se mettre dans l'ambiance de Mauriac, raviver leurs souvenirs.
Terrible.
Si c'était terrible. Nécessaire. On distribue au hasard. Allez, chacun prend un texte, Jean Gardin, pour lecture. Amis experts, à vous de jouer. Vous aussi, parce qu'eux, ils ont déjà fait une partie du travail, ils ont écrit leur pastiche. Hein ?
Nous sommes toutes oui.
Eh bien, ça va commencer tout de suite avec un premier lecteur, Lucas Fournier, qui lit un premier texte de qui est-il ce texte ?
Le début. Alors, j'attends toujours ta réponse. Je ne sais plus, c'est peut-être... La gifle tomba avant la réponse, claquant comme un fouet. Mon pauvre ami, tu ne feras jamais rien si tu n'apprends rien. Et les coups redoublèrent sur les joues du gamin. La fin ?
Oui.
L'armistice était tombé, comme malgré lui. Mais maintenant... Contraint à la paix, le père reconnaissait enfin son fils.
Oui, ce truc-là, oui. C'est pas du Mauriac, c'est tout ce que je peux dire.
Une mère dirait jamais mon pauvre ami à son fils.
Oh, j'ai dû le dire au mien, ça
Mercou, c'est... elle sort la ceinture et puis elle...
Oui, c'est pas assez violent, non, en effet. Pas c'est pas violent. Du tout assez violent.
Mon pauvre ami, son fils, ça dépend de l'époque, non?
Non, là, c'est des coups, c'est de la haine, c'est de... D'abord, c'est elle qui le traite de sagouin, donc...
On est dans un milieu rural. Oui. Là, mon pauvre ami, c'est à Janson de Sailly qu'on dit ça. Non, mon pauvre ami, vous avez vu votre dissertation, vous auriez pu faire un peu mieux.
Et
non,
surtout,
non.
Il me semble qu'à la fin, le père est beaucoup plus coupable, beaucoup plus malheureux. Il est là dans ce cimetière, il a peur de sa femme aussi, donc ça ne va pas, ce n'est pas assez poignant. Voilà.
Bon, ni assez poignant, ni assez violent.
Je dirais donc que c'est Dupuis.
Qui est un type délicieux, c'est évident, mais les autres aussi d'ailleurs.
Bon. Oui, mais il prend la vie du bon côté, Jean-Bernard. Voilà.
Puis il y a une petite facétie là, dans la chute. La première phrase, on dirait du Pierre Dac presque, la première phrase.
L'armistice était tombé, comme malgré lui.
Voilà.
Oui.
Quand même, là, franchement, faut pas. L'armistice, c'est Mauriac. Mauriac ne fait pas ce genre de gaudriole, quand même. Non, non. Non, là, nous sommes avec un texte de Patrice Caumont.
Ah, bon, c'est déjà notre première réponse peut être modifiée.
Oui, bien sûr.
C'est même le premier texte.
Voilà. Bien sûr, Patrice Caumont pour Patrice Delbourg. Et pour vous, Dominique ?
Jean-Bernard Pouy, j'insiste.
Donc vous le maintenez, Jean-Bernard. Bon, c'est une première option. Hein. Voilà. Mais c'est déjà très courageux, je trouve.
Oui,
c'est deuxième lecteur, Jean-Bernard Pouy, justement.
Oui. Je voudrais comprendre vraiment. J'en ai le droit. Mais comprendre quoi, mère ? Que veux-tu ? Me faire souffrir ? Je veux pas te faire souffrir, mère. Je veux simplement te punir. Mais un fils ne peut pas punir sa mère, c'est interdit. Et pourtant, regarde-toi, tu es puni. Et la fin,
oui.
Le marbre semblait observer le père et le fils, figés devant la tombe, ombre noire qui frissonnait dans le vent léger venu des vignes et qui paraissait, par instant, sourire.
Vous avez dit « Ah, Patrice Delbourg », ce qui signifie...
La chute est assez bien troussée.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ait collé les vignes, le côté Mauriac, la vigne, voilà.
Oui.
Le côté cliché, quoi.
Non.
Mais moi, je trouve le début très bien.
Ah, oh, le début est pas
avec
assez
l'enfant
violent.
Qui tient tête à la mère.
Oui. On sent qu'ils n'ont jamais été.
Des martyrs.
Une mère qui tape avec son tisonnier sur son fils, comme ça, qui lui creuse la nuque avec le. Non, ça manque de violence, je trouve, encore une fois.
Bon. Donc c'est pas Mauriac.
Non, c'est pas Mauriac.
Il y a une boutique réservée. Mais non, c'est pas Mauriac non plus.
Ça laisse un peu pantois quand même, tous ces textes.
Ça pourrait être Dupuis.
Moi j'attends un pire, un terrible aussi.
Ah oui, un méchant, un vrai méchant.
Oui, la cruauté quoi.
Alors peut-être celui que va nous lire Patrice Caumont, avec son ton le plus ferme.
Tu ne sais pas ta leçon, imbécile. Mais maman, je n'ai pas eu le temps. Une gifle vola. L'enfant retenait ses larmes. Pourquoi Dieu m'a-t-il donné ce sale gosse ? C'est le diable qui t'a fait. Va-t'en, va-t'en. Où veux-tu que je m'en aille ?
Quel comédien.
Mais on s'y croirait, hein ? On a les larmes aux yeux.
Oui. Ah oui, c'est
là,
poignant.
Voilà,
là, c'est
ça,
poignant.
On est en plein dans un. Voilà. Oui.
Et puis il y a Dieu qui arrive.
Bon. Ah oui. Non, moi je dirais là, Mauriac. Bah oui.
Pour le début.
Ah bah oui.
On n'a pas encore eu la chute dans la nécropole.
Non.
On avait fraîchement gravé sur le marbre le nom de Pauline. Devant la pierre froide, le père et le fils demeuraient silencieux. Ils sentaient, en se frôlant, presque malgré eux, la chaleur des épaules. Ils n'avaient plus besoin de s'enlacer pour se connaître.
Ah, c'est joli, ça.
Très bien. Mais bizarrement, je pensais que c'était le fils qui mourrait.
Qu'est-ce que vous pensez, Patrice Delbourg ?
C'est bien joué. Il a fait semblant de déchiffrer ce texte.
Oui.
Et ensuite, il l'a porté avec beaucoup de solennité. C'est pas mal fait de la part de Patrice Caumont, quand même.
Un très bon comédien.
Oui, un bon comédien. Avec un petit remords. Et ensuite, il s'engage, comme ça, sur la voie royale. oui, ça semble bien ressembler au Mauriac. Mauriac jeune, hein, parce que le Sagouin, c'est une œuvre plutôt du début. Un petit Mauriac un peu tendre encore.
Oui.
En tout cas, et dans le début et dans la fin, le lecteur est plongé en plein dedans. Enfin, il participe forcément. Il est un acteur des deux scènes. Je réemploie le mot de poignant.
Oui.
Et si c'est un faussaire, bravo.
Je note. Si c'est un faussaire, bravo. Oui. Est-ce que vous voulez entendre une quatrième lecture?
Oui.
Pourquoi me soutenir que tu sais ta leçon? Tu vois bien que tu ne la sais pas. Tu l'as apprise par cœur, vraiment? Une gifle claqua. Monte dans ta chambre, que je ne te vois plus jusqu'au dîner. L'enfant porta la main à sa joue, comme s'il avait eu la mâchoire brisée. Oh là là, vous m'avez fait mal. La fin. Les mères recouvrirent les tombes abandonnées et la mousse acheva de rendre les épitaphes indéchiffrables. Depuis que M. Galéa a pris son petit garçon par la main et a choisi de partager leur sommeil, il n'y a plus personne à Cernès pour s'occuper des morts.
Ah, c'est complet.
C'est beau. Ouais. Bravo, Patrice Comon.
Ce serait du Comon, ça.
Non, c'est du Lucas, mais il y a un joli souci.
Ah, Lucas,
propre.
Pour
c'est
vous.
Lucas, non.
Lucas. Moi, je dis Patrice.
Patrice.
C'est Lucas, plutôt.
Pourquoi ce serait plutôt Lucas, pour vous?
C'est bien architecturé, la phrase est bien balancée, il y a la mémoire des noms propres, Cermès, Madame, etc. Bon, alors que les autres faussaires s'en souvenaient déjà plus. Donc c'est Lucas qui a quand même les ménages les plus fraîches, un petit peu. Je pense que ça, c'est important.
Et pourquoi Patrice Comon, Dominique Muller?
Eh bien, parce qu'il ne s'en rend peut-être pas compte, mais il y a cette espèce de terrible peur de la disparition de la mort. C'est les tombes moussues, on ne se souvient déjà plus des défunts, et il y a comme ça, chez Patrice, j'en profite pour te le dire, je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais cette espèce de crainte immanente de la pulvérisation, quoi, poussière, tu redeviendras poussière, tout le tralala.
Ah oui, il n'y a plus aucune trace, quoi.
Voilà.
Et ça l'angoisse.
Il me semble.
D'accord. Bon, écoutez, ce sont des arguments solides. Vous ne répondez pas, Patrice Comon, parce que ce serait leur donner des pistes et qu'il ne faut pas pactiser avec l'expert. On refait un tour de lecture, Lucas Fournier.
Alors, j'attends toujours ta réponse. Je ne sais plus, c'est peut-être... La gifle tomba avant la réponse, claquant comme un fouet. Mon pauvre ami, tu ne feras jamais rien si tu n'apprends rien. Et les coups redoublèrent sur les joues du gamin.
Oui.
La fin. L'armistice était tombé, comme malgré lui. Mais maintenant, contraint à la paix, le père reconnaissait enfin son fils.
Alors, première option, au premier tour, Dominique Muller, vous aviez dit que c'était du Jean-Bernard Pouille.
Je persiste.
Vous persistez. Mmh. Et vous, Patrice Delbourg, vous aviez dit, mon pauvre ami, c'est plus le lycée Janson de Sailly, ça fait plus Patrice Comon. Je ne sais pas du tout s'il est allé à Janson de Sailly, Patrice Comon, non, mais c'est sûrement dans un très bon lycée, oui.
C'est surtout cette petite faiblesse, l'armistice tomba malgré lui. Mauriac ne peut pas écrire une chose pareille. C'est pas possible. C'est du second degré. Donc ça peut être aussi Pouille, d'ailleurs.
Je pensais Pouille qui, se disant attention, Mauriac, c'est violent, a essayé de réfréner sa pente naturelle qui aurait été de lâcher. Ouais. Et justement, il s'est resserré.
Vous voyez.
Et il s'est permis une blague.
Une petite blagounette.
Enfin, ouais. Oui.
Mauriac, il se fait une petite blagounette en fin de. Non. Pas possible.
Bon, bah en tout cas, vous êtes sûr de vous. Et maintenant, on écoute le lecteur Jean-Bernard Pouy. Qui lit-il? À vous de le dire.
Je voudrais comprendre. Comprendre vraiment. J'en ai le droit. Mais comprendre quoi, mère? Que veux-tu? Me faire souffrir? Je ne veux pas te faire souffrir, mère. Je veux simplement te punir. Un fils ne peut pas punir sa mère, c'est interdit. Et pourtant, regarde-toi, tu es puni. Et la fin. Le marbre semblait observer le père et le fils... figé devant la tombe, ombre noire qui frissonnait dans le vent léger venu des vignes et qui paraissait, par instant, sourire.
C'est un bon lecteur, hein, oui, Jean-Bernard Pouy. Oui.
Très bon.
Surtout quand il se lit lui-même.
Ah bon? Ah oui. Parce qu'il a une petite affection pour son texte. Oui.
Mais elle n'est pas ici, mais je dirais plutôt que c'est du Margaret Mitchell, en un certain sens. Parce que
ah,
c'est très cinématographique.
On emporte le vent. Oui, on voit la scène.
Oui, avec les deux silhouettes. Voilà. Mais enfin, je dirais Lucas. C'est un compliment.
Lucas, parce qu'il ressemblerait...
à Margaret. Il ne lui reste Margaret plus qu'à écrire Mitchell. Autant n'importe quoi.
C'est flatteur, quand même. C'est le plus grand succès de tous les temps,
oui.
Non? Et pour vous, Patrice Delbourg?
Jean-Bernard est un libertaire, il ne sait pas ce que c'est qu'une éducation rigoureuse. Il n'a jamais battu ses enfants, il n'a jamais sorti la ceinture, ni le martinet.
Oui.
Et là, ça sent mère, par exemple. Ça joue sur une culpabilisation, mais quand même assez douce, assez légère.
À distance.
À distance. Oui. Il lit son propre texte.
lui-même a peut-être été battu, petit, mais il n'a jamais battu ses enfants, ça se sent.
Ah non, je crois que son papa était très gentil, oui. Chef de gare. Ah,
chef de gare, il sort souvent.
Sur les rails quand les
oui, et il donnait des coups de signal sur la tête.
Donc nous avons un Lucas Fournier pour Dominique Muller et un Jean-Bernard Pouy pour Patrice Delbourg. Expert très brillant, hein. Des arguments forts.
En tout cas convaincu.
Voilà. Non mais après, c'est pas grave de se tromper, mais vous savez où vous allez. Même si vous allez pas où il faut, quoi. Je ne sais pas, moi d'ailleurs. Patrice Caumont, à vous de lire.
Tu ne sais pas ta leçon, imbécile. Mais maman, je n'ai pas eu le temps. Une gifle vola, l'enfant retenait ses larmes. Pourquoi Dieu m'a-t-il donné ce sale gosse? C'est le diable qui t'a fait. Va-t'en, va-t'en. Où veux-tu que je m'en aille?
Ah, mon Dieu.
Ah oui, oui.
Oui, sortez votre mouchoir.
Oui, oui, je m'y vois.
On avait fraîchement gravé sur le marbre le nom de Pauline. Devant la pierre froide, le père et le fils demeuraient silencieux. Ils sentaient, en se frôlant, presque malgré eux, la chaleur des épaules. Ils n'avaient plus besoin de s'enlacer pour se reconnaître.
Alors, très joli texte. Oui. Vous aviez pris une option Mauriac, oui, oui, tous les deux.
Je maintiens.
Oui.
Oui, oui.
Même bon. Si ce n'est pas lui, ça me ferait plaisir que ce soit de lui, quand même.
Oui. Et
puis là, on sent qu'on veut faire mal à l'enfant. On lui pétrit la cervelle et tout. Oui, moi-même, Dieu, ma grand-mère, Marie-Louise, qui m'a élevée en Haute-Vienne, utilisait des arguments un peu comme ça.
Ah bon?
Oui, oui, oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a foutu un gamin pareil?
Ah ouais.
Eh oui,
non, et vous en est resté quelque chose, hein? Ouais. La fragilité. Le...
C'est vrai.
Bon, donc nous avons deux Mauriac.
Deux Mauriac.
Il vous reste un texte à réécouter. Alors, pourquoi me soutenir que tu sais ta leçon? Tu vois bien que tu ne la sais pas. Tu l'as apprise par cœur. Vraiment? Une gifle claqua. Monte dans ta chambre, que je ne te vois plus jusqu'au dîner. L'enfant porta la main à sa joue, comme s'il avait eu la mâchoire brisée. Oh là là, vous m'avez fait mal. La faim. Les mères recouvrirent des tombes abandonnées, et la mousse acheva de rendre les épitaphes indéchiffrables. Depuis que M. Galéa a pris son petit garçon par la main et a choisi de partager leur sommeil, il n'y a plus personne à Cernès pour s'occuper des morts.
Ben c'est terrible, philosophie du néant, Patrice Caumont.
Ah ouais, c'est ce que vous aviez dit, oui, la poussière, et il ne supporte pas la poussière.
Et ouais. La mousse quand même.
Et la mousse, alors, bon, donc Patrice Caumont, vous maintenez.
Oui.
Hein?
La mousse, c'est important, la mousse.
Ah, et alors vous aviez pris une option Lucas Fournier.
Oui, le lichen qui ronge la pierre tombale, c'est plutôt Lucas, ça, la mousse. Oui, on sent quand même le salpêtre qui ronge, qui attaque, le ver de gris. Non, Patrice, comment on n'écrirait pas ça? C'est Lucas, je pense.
Vous aviez dit que c'était bien architecturé, oui. Et qu'il avait la mémoire des noms propres.
Absolument.
Il y a quand même une Pauline dans le texte, oui. De Patrice Caumont.
Mais là, il y a Cernès.
Il y a Cernès.
Et même Galéa, quand même.
Oui.
Non, il a été attentif.
Bon, si je récapitule, c'est pas si facile parce que les textes étaient difficiles à synthétiser, si je puis dire. Dans la première lecture faite par Lucas, il y avait cette histoire de l'armistice était tombé. Et cet armistice qui tombe, Patrice Delbourg, vous mène à Patrice Caumont.
Malgré lui aussi, c'est ça.
Oui, c'est oui,
malgré lui. Comme malgré lui.
Ah.
Et vous, Dominique, vous êtes plutôt vers Jean-Bernard Pouy. Le tendre Jean-Bernard qui n'arrive pas à être assez violent.
Être violent, être méchant. Oui.
Voilà. Deuxième texte, lu par Jean-Bernard Pouy. Le marbre semblait observer le père et le fils. Ce côté Margaret Mitchell, avez-vous souligné, Dominique Muller, que vous attribuez à Lucas Fournier,
oui.
Futur auteur de best-seller, Lucas, avec une chute bien troussée à la Jean-Bernard Pouy pour vous, Patrice Delbourg. Ensuite, Patrice Caumont, tu ne sais pas ta leçon, imbécile. Où veux-tu que je m'en aille, dit le pauvre enfant à la fin. Pour vous, vous aviez dit, Dominique, si c'est un faussaire, bravo. Et vous avez dit, c'est du Mauriac, finalement.
Oui,
la douleur est là.
Et pour vous, vous aviez souligné l'excellent comédien qu'est Patrice Caumont, mais vous dites quand même que c'est du Mauriac.
Enfin, le texte que je vous ai lu, cette fameuse peur de la disparition de la mort que Dominique Müller attribue à Patrice Caumont, ce texte qui est plein de noms propres, et ça, avec la mousse, vous l'attribuez à Lucas Fournier, Patrice Delbourg. Donc ce sont des textes denses, complexes, violents. Qui a en main le vrai texte de François Mauriac? Eh bien, c'est moi.
Ah ben ça alors.
C'est moi.
C'est la peur de la mort.
La peur de la mort, c'est pas Patrice Caumont, ou c'est peut-être aussi Patrice Caumont, comme nous tous, je pense d'ailleurs. Et la petite mousse, ben, c'est pas celle de Lucas Fournier, Patrice.
Celle de Mauriac.
Celle de Mauriac. Vous voulez bien lire le texte de Mauriac, Gérard Mandilla, puisque c'est vous qui l'avez choisi, avec toute la violence dont vous êtes capable.
Pourquoi me soutenir que tu sais ta leçon? Tu vois bien que tu ne la sais pas. Tu l'as apprise par cœur? Vraiment? Une gifle claqua. Monte dans ta chambre, que je ne te vois plus jusqu'au dîner. L'enfant porta la main à sa joue comme s'il avait eu la mâchoire brisée. Oh là là, vous m'avez fait mal. Et la fin? Les ronces recouvraient les tombes abandonnées, et la mousse acheva de rendre les épitaphes indéchiffrables. Depuis que Monsieur Galéa a pris son petit garçon par la main et choisi de partager leur sommeil, il n'y a plus personne à Cernès pour s'occuper des morts.
C'est beau, hein, c'est un beau texte.
C'est un texte magnifique, absolument magnifique.
Bah, vous êtes flatté, Patrice Caumont, Lucas Fournier. C'est du Mauriac et on vous l'a attribué.
Oui, on est très content.
Oui. Ah, très content. Ah, oui. Oh, vous m'avez l'air mifique, Patrice Caumont. C'est la réflexion de Dominique qui vous...
Parce que, c'est pas parce que je fais un peu d'asthme et que j'aime pas la poussière.
Que vous avez si peur de la mort que
ça. C'est pas la peur, mais c'est cette espèce de fatalisme du néant. Voilà.
Ah oui, le fatalisme du néant. Ah ben là, oui.
Non, c'est pas la peur. On a tous peur, mais c'est le fatalisme du néant. Voilà.
Ah, moi, je m'attendais à plus de violence dans la première scène.
Oui, moi aussi.
Mmh. Ah oui.
Oh, ben, quand même.
Ah non, mais c'est pourquoi comme... nous avons choisi, nous, la 3, qui est vraiment très, très...
Oh là là, vous m'avez fait mal.
Oh là là, mère, vous m'avez fait mal.
Eh, c'est un enfant et... comme s'il avait la mâchoire brisée.
Voilà.
Je veux dire, elle lui a mis une mornifle, elle lui a arraché la
mais
tête.
Mais c'est le « oh là là, comme vous m'avez fait mal » qui est bizarre.
Mais, oh là là.
Parce qu'il fallait bien écouter la présentation, puisque l'enfant est non seulement disgracié, et légèrement demeuré.
Oui. Ah, je m'en souvenais aussi.
Voilà.
Retour sur podcast. Bon, on reprend les lectures dans l'ordre et on voit qui a écrit les textes.
C'est pourquoi le 1 ne peut pas être de cet enfant-là, car il ne peut pas dire « c'est moi qui vous punis, c'est moi qui vous punis ».
Bien entendu.
Alors, le fameux armistice qui était tombé, comme malgré lui, Lucas Fournier, c'est la lecture que vous allez nous refaire.
Oui, le début c'était « alors j'attends toujours ta réponse ». Je ne sais plus, c'est peut-être... La gifle tomba avant la réponse, claquant comme un fouet. « Mon pauvre ami, tu ne feras jamais rien si tu n'apprends rien. » Et les coups redoublèrent sur les joues du gamin. Et la fin, l'armistice était tombé comme malgré lui, mais maintenant, contraint à la paix, le père reconnaissait enfin son fils.
Alors, Dominique, vous l'avez attribué ce texte à Jean-Bernard Pouy. Mm-hmm. Patrice Delbourg à Patrice Caumont, de qui est-il?
Mais il y a un vainqueur, c'est Patrice Caumont qui a écrit ce texte.
Eh, bravo Patrice Delbourg. Le fameux lycée Jean-Sainfailly et mon pauvre ami.
Non, Henri IV.
Henri IV, oh, c'est encore mieux, non?
C'est chic.
C'est du très bon Caumont, non?
Oui.
Bon, une chute, hein, Dominique, ça arrive, c'est pas grave.
Je sens que
enfin, c'est le deuxième,
oui,
quoi.
Oui, c'est déjà... Mais... Hein. Mais enfin, tous ces textes étaient très bons. C'est vrai, en plus.
Jean-Bernard Pouy, vous avez lu un texte très joli, très Margaret Mitchell, d'après Dominique Müller. On le réécoute?
Je voudrais comprendre vraiment. J'en ai le droit. Mais comprendre quoi, mère? Que veux-tu? Me faire souffrir? Je ne veux pas te faire souffrir, mère, je veux simplement te punir. Un fils ne veut pas punir sa mère, c'est interdit. Et pourtant, regarde-toi, tu es puni. Et la fin, le marbre semblait observer le père et le fils, figés devant la tombe, ombre noire qui frissonnait dans le vent léger venu des vignes et qui paraissait par instants sourire.
Alors, donc, ce texte attribué à Lucas Fournier pour Dominique Müller, à Jean-Bernard Pouy à cause de la chute bien troussée, avez-vous dit, par Patrice Delbourg, de qui est-il?
De Jean-Bernard Pouy.
Décidément.
Ça fait le deuxième point pour Patrice Delbourg, on est très fiers. Patrice, comment on réécoute votre texte? Enfin, pas le vôtre, celui que vous aviez sous les yeux.
Tu ne sais pas ta leçon, imbécile. Mais maman, je n'ai pas eu le temps. Une gifle vola, l'enfant retenait ses larmes.
Pourquoi Dieu m'a-t-il donné ce sale gosse? C'est le diable qui t'a fait. Va-t'en, va-t'en. Où veux-tu que je m'en aille?
Ça, c'est... À tes pieds noirs, c'est bizarre. Ah,
ça, c'est Robert Castel.
Évidemment, dit comme ça.
Allez.
La fin.
On avait fraîchement gravé sur le marbre le nom de Pauline. Devant la pierre froide, le père et le fils demeuraient silencieux. Ils sentaient, en se frôlant, presque malgré eux, la chaleur des épaules. Ils n'avaient plus besoin de s'enlacer pour se reconnaître.
Et alors, c'est de qui ça?
Lucas Fournier.
Eh ah. Oui, c'est du très beau Lucas.
Ah
oui,
très beau Lucas. Alors, là, ça aurait mérité d'être du Montréal.
Alors, une fois de plus à ce jeu, parce que ça lui arrive assez souvent, eh bien, c'est un texte que vous avez attribué à François Mauriac. Et non, c'est du Lucas Fournier. Il est souvent pris pour l'auteur.
Pour l'auteur, oui. Eh oui.
Et oui, donc c'est un super pasticheur, ah oui. Je dirais.
Mais même dans la rue, quand il marche, souvent les gens disent tiens,
tiens, c'est tiens François Mauriac.
Je te remercie. Tiens, Galabru.
Ça vous fait plaisir, Lucas?
Oui. Ah, beaucoup, oui. Bien sûr.
Parce que c'est Mauriac, quand même, c'est pas rien.
Ah, c'est un écrivain exceptionnel.
En tout cas, on peut lire Le Sagouin, c'est un livre magnifique. Oui. Il y a une dimension que vous n'avez pas bien saisie. J'avais précisé que cette mère si violente pousse son fils au suicide. Et donc, dans le cimetière, c'est quand on dit que le père a pris la main du fils pour le rejoindre dans le sommeil, c'est qu'ils se sont suicidés tous les deux.
Ah.
Quand le fils allait pour sauter dans le canal, le père a pris sa main. Et ils se sont suicidés ensemble. Et justement, ce qui est très fort, c'est que c'est sans pathos. Il n'y a pas du tout, je crois, qu'il ne sort jamais les violons. Et l'enfant est une victime absolue, qui ne réplique pas, qui ne se
révolte. Il dit quand même, oh là là, ça m'a fait
mal. Souffre. Oui, il souffre, mais il est une victime absolue.
Oui.
Et ça n'est qu'une suite de moqueries, de mépris, d'injures et de coups. Mais tout ça, écrit d'une façon finalement assez froide et distanciée, ce qui fait toute la force du texte et aussi son horreur.
Enfin, leur texte était quand même très bon. Hein.
Ah non, mais beaucoup ont recroisé plein de choses. La gifle, les leçons, tout ça. Oui, tout était là. Ça tournait autour de Mauriac. Et puis, il faudra le prendre par la main la prochaine fois.
Il est sympa quand même. Non, hein.
Surtout, on dit bravo Mauriac. Parce qu'en plus, il vient de le défendre avec
et de nous donner envie de lire,
oui, bien sûr,
Le Sagouin.
Vous ne le regretterez pas.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr. C'est le podcast pendant un an. Tous les renseignements sur notre émission publique le 30 septembre, vendredi à 20h à la Maison de la Radio sur nos pages Facebook et les papous sur franceculture.fr. On se retrouve dimanche à 12h50 après l'année politique de Prieur de la Marne. Au revoir. Passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en bonne compagnie. Tiens,